qui ?
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International aujourd'hui.
Ici c'est Manchester ici.
Autre coup de tonnerre, hier soir dans le ciel de Paris, l'impensable, l'inimaginable, le PSG éliminé sur sa pelouse du Parc des Princes par Manchester United, son équipe B qui n'a même pas son leader charismatique Paul Pogba pour l'emmener hier dans cette bataille. Pourquoi ? À qui la faute ? Depuis hier, les débats s'enflamment partout, dans les médias, dans les cafés, dans les transports en France et bien sûr sur les réseaux sociaux. Nous ferons dans cette émission une thérapie de groupe pour essayer de trouver quelques réponses à cette élimination humiliante du Paris Saint-Germain. Nous évoquerons aussi Manchester United et donc Porto qui rejoignent l'Ajax d'Amsterdam et Tottenham. Ce sont donc les quatre équipes qualifiées cette semaine pour disputer les quarts de finale de Ligue des Champions. Et pour évoquer ces sujets aujourd'hui, alors d'abord, honneur aux dames, honneur à une dame qui revient nous voir ici à Paris et dans notre studio. Bonjour Valentina Clemente.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous êtes venue à Paris pour assister au match.
À cette défaite incroyable du Paris Saint-Germain. J'avais l'espoir que Buffon pouvait faire la différence, bah... C'est mort.
Non, c'est même le contraire, on va y venir. Alors, autre invité hier par le Paris Saint-Germain, avec les VIP du Paris Saint-Germain, avec d'anciennes gloires du Paris Saint-Germain, lui-même gloire et légende, Carlos Bianchi, bonjour.
Bonjour à tous.
C'était bien hier soir au Parc des Princes ?
Oui, malheureusement, à la sortie, il tombait des cordes. Je me suis mouillé avec ma femme. On avait 400 mètres à faire jusqu'à l'avenue Boulevard Murat.
Murat.
Oui, on s'est mouillé quand même, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. Le ciel vous est tombé donc sur la tête. Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous n'étiez pas au parc, mais vous avez évidemment suivi cette folle soirée. Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie,
vous
bonjour
avez un
à tous.
Petit sourire narquois. Hein
pas
hein
narquois, hein je...
non, non. De plaisir,
tout va
alors.
Bien, tout, ouais, va bien.
Tout va bien. Bon, et puis Frédéric Suto était hier soir au parc, et vous l'avez entendu Annie. Sur les ondes de RFI. Bonjour Christo... Frédéric, et bonjour, et bien, surtout à vous qui... avait tardé, vous aussi. Vous avez pris la pluie ou elle avait déjà cessé ?
La pluie sans discontinuité toute la soirée.
Pendant le match,
ouais,
et
avant,
même en sortant
pendant,
du stade.
Après, mais on s'est bien amusé avec Olivier Pron. On a vu début et du suspense jusqu'au bout. Que demander de plus ?
Et bien justement, hein, on va se rafraîchir la mémoire. Radio Foot, c'est parti.
Deux minutes que l'on joue, 0-0. Attention, ce ballon mal donné avec Lukaku. Peut-être face à Buffon, le crochet. L'ouverture du score pour Manchester sur cette erreur.
Le sort de Mbappé. Et deux minutes, l'égalisation parisienne. Et qui a surgi là-bas au deuxième poteau. C'est Juan Bernat.
Attention à Manchester United. Marcus Rashford, il est à une trentaine de mètres. Il va tenter la frappe. Ouais, c'est bien joué. Attention.
Oh,
l'erreur de Buffon sur la frappe de Marcus Rashford. Il n'y avait rien de mieux à faire. Lukaku qui vient marquer son deuxième but ici.
Fin de cette première période. On a vu trois buts. La dernière minute du temps réglementaire.
Qu'est-ce qui se passe-t-il donc ? Il demande l'arbitrage vidéo.
L'arbitrage vidéo. Alors,
est-ce qu'il va siffler penalty ?
Comes down to Marcus Rashford against Gianluigi Buffon. Oh, he smashed it in! What a penalty from Marcus Rashford! Manchester United with another glorious night in the Champions League.
This is the Manchester City.
Alors que dire ? Dégringolada, comme disait hier soir Olivier Pron sur les antennes de RFI, ou comebacktada, comme l'écrit aujourd'hui David Finzel sur notre page Facebook, ou tout simplement élimination, puisqu'aujourd'hui le résultat est là. Le Paris Saint-Germain s'arrête encore en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ils sont encore, les Parisiens, en dehors de la compétition européenne, pourtant à l'origine du fameux projet des Qatariens. Statistiquement, sur 377 matchs de Coupe d'Europe depuis 1980, il y avait 3% de choses, de chances que ce scénario se produise. Et dans l'histoire de la Ligue des Champions, le PSG est la première équipe à être éliminée après une victoire par 2-0 à l'aller et à l'extérieur. Avant qu'on évoque un peu tous les thèmes autour de cette défaite, je voudrais juste vous poser cette simple question et vous me répondez rapidement, mais est-ce que vous aviez imaginé un tel scénario catastrophe, Carlos Bianchi?
Non.
En arrivant au stade?
Non, non, non. La vérité, non. Moi, j'avais dit, ils m'ont demandé, j'ai dit, le meilleur, ça serait qu'ils marquent un but à la première mi-temps et un deuxième à la deuxième.
Le Paris Saint-Germain?
Mais après, j'ai
le
réfléchi.
Le PSG?
Paris Saint-Germain, oui.
Ouais, d'accord.
Et parce qu'ils jouaient contre une équipe quelconque. Hein. Et par contre, moi, j'ai réfléchi après, j'ai dit, l'entraîneur de Manchester, il avait dit que lui, il voulait marquer le premier but. Et après, ils ont demandé à l'entraîneur de Paris Saint-Germain, il a dit, à nous aussi, on voudrait marquer le premier but. Au lieu de dire, je dois empêcher à l'autre équipe de marquer le premier but. C'est plus important.
Là, c'est l'entraîneur qui parle et on reconnaît. On va y venir donc à tout ça, Carlos. Bruno?
Oui.
Vous qui connaissez si bien Manchester, ABCD, tous les joueurs, tous ceux qui étaient hier sur la pelouse et que nous, on connaissait moins. Vous aviez imaginé ça?
Je vais pas vous dire que j'y croyais avant, mais j'ai beaucoup apprécié le discours de Ole Gunnar Solskjær depuis le match aller, depuis après le match aller jusqu'au match retour, où il a fait preuve d'humilité, mais il a toujours dit qu'il y croyait. Et il s'est jamais, mais à aucun moment, caché derrière l'hécatombe de blessures. Et il manquait quand même 10 joueurs. Et je trouve que ça contraste énormément avec le discours qu'avait Tourelle avant le match aller, qui parlait de plan B, de plan C, quand il y avait toutes ces blessures.
Mmh. Nabil, vous aviez imaginé ça?
Ah non, je n'avais pas imaginé que le Paris Saint-Germain soit éliminé de la sorte face à une équipe B, C ou D de United avec des U17 qui rentrent en fin de match. Non, très sincèrement, un tel scénario, personnellement, je ne pouvais pas le prévoir.
Valentina, vous veniez pour voir une victoire du Paris Saint-Germain?
Oui, normalement, oui, mais j'avais une mauvaise sensation avant les débuts du match. Dans le sens, je ne les sentais pas, je ne peux pas expliquer, mais comme il a dit Bruno, je pense que le PSG, il a manqué d'humilité. C'est ça qui a fait vraiment la différence hier soir sur le
terrain. Pardon, avant le premier but, tu avais une sensation de doute parce que ça durait 2 minutes seulement.
Oui, non, avant les débuts de l'essence.
Avant le match.
Avant les débuts du match.
Frédéric, vous n'étiez pas parti pour commenter une remontada.
On se projetait déjà sur le quart de finale. Non, on s'y attendait quand même pas. On pensait que la leçon avait été retenue. La plaisanterie à Barcelone, ça suffit une fois.
Mais oui, mais on en plaisantait d'ailleurs à la fin de l'émission hier en disant, bon, peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième coup de tonnerre puisqu'on avait commencé hier, les auditeurs s'en souviennent, avec un coup de tonnerre et c'était pour signifier l'élimination des triples champions d'Europe en titre qui étaient les joueurs du Real Madrid. Alors, pourquoi le PSG a-t-il perdu ce match retour par 3-1 après avoir gagné à Old Trafford au match aller? C'était 2-0, vous vous en souvenez, il y avait eu un certain panache, on avait l'impression qu'il y avait un état d'esprit. Écoutons l'entraîneur, encensé jusqu'à hier soir, l'Allemand Thomas Tuchel, qui ne trouvait pas d'explication à la sortie du match.
On a joué avec beaucoup de qualité les premières 30 minutes. Comme je dis, on a eu beaucoup d'occasions de faire un deuxième, un troisième but. On n'a pas fait ça encore. Nous avons défendu très haut, nous avons contrôlé le match complètement. Je n'ai pas de mots pour expliquer parce que j'ai le même sentiment que dans la Coupe de la Ligue. On a perdu contre Guingamp un match, ce n'est pas possible de perdre, mais ils ont eu 3 pénaltys et c'est la même chose aujourd'hui. Ils ont fait 3 buts sans attaquer, ils ont fait 3 buts sans avoir occasion. C'est difficile de peut-être pas possible d'analyser.
Pas possible d'analyser, pas possible d'apporter une explication. Écoutons quand même Romelu Lukaku, l'homme d'en face, le joueur de Manchester, le double buteur, meilleur joueur donc des Red Devils hier soir. Lui, il en a une d'explication.
Pour nous, avant le match, on avait espoir et on savait que si défensivement on faisait un bon match, on savait qu'on allait se créer des occasions. Et voilà, on a eu de la chance qu'il y avait deux erreurs défensives de leur part et on a su profiter. Et après, voilà, l'égalisation, c'était un peu un moment quand même assez difficile aussi. Mais après, en deuxième mi-temps, il fallait rester soudés et on a travaillé. Et après, on a eu la chance à la fin. Donc voilà, on a eu la chance avec nous ce soir. Mais défensivement, je pense qu'on a fait une belle performance.
Alors, est-ce que c'est le facteur chance, Carlos Bianchi? Est-ce qu'il y a un facteur chance du côté de Manchester? Et on entend, ça peut être la malédiction du Paris Saint-Germain. C'est aussi quelque chose, une défaite irrationnelle. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont joué trop naïvement, pas avec de la rigueur qu'il faut de temps en temps. Et on parle très sérieusement des fois que Ramos est un assassin, Hummels, il met des semelles, Chiellini, il sait pas jouer au football. Mais quand tu joues contre ces mecs-là, quand tu es un attaquant, tu reviens pas très souvent. Et hier, Paris n'a pas donné un seul coup. Il n'a pas frappé le ballon à la tribune. Il faut des fois être réaliste, parce que la seule chose qui reste dans l'histoire,
c'est
la qualification. La qualification.
Ou l'élimination.
Et alors, c'est ce qui arrive à Paris très souvent. À Barcelone, c'était pareil. Il n'y a pas un qui l'a tombé par terre. Il n'y a pas un qui l'a frappé à la tribune. Il n'y a pas un qui a donné un coup contre Barcelone. Tu sais qu'est-ce que c'est que c'est 6 buts dans un match, 3 buts en 7 minutes. Ce sont des choses que tu dois, et sont les mêmes joueurs, la plupart, hein. Alors, tu dois te demander, qu'est-ce que ça donne?
Alors, ça serait ça, peut-être dans les têtes? Un facteur moral.
Et peut-être qu'ils sont pas au niveau pour être champions d'Europe.
Mais pourtant, si, Carlos, simplement. Ils ont recruté Dani Alves, le Brésilien, joueur.
Pour jouer où?
Joueur.
Jouer où? À quelle place?
Ailleurs.
Tu l'achètes, tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi?
Non, mais je suis d'accord.
À la fin, tu achètes Meunier, le Belge. Ouais. Il t'amène 2 Arirel et aucun des deux il joue.
Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais je veux dire par là, leur recrutement, il était aussi ciblé par rapport à ça. Par exemple, le déficit de mental, il avait été quand même ciblé. Donc, ils ont quand même recruté des joueurs qui étaient censés. Après, ils ont été défaillants, mais censés répondre à ça. Daniel Alves, Buffon, c'est quand même des joueurs avec une expérience XXL. Je veux dire que même eux. Ce noix avec ce Paris Saint-Germain là, c'est vraiment complètement surréaliste quoi.
Mais tu sais, et des fois, moi j'aime pas le président du Real Madrid, je suis sincère, parce qu'il est trop. Bon. Mais quand j'avais pris l'équipe de Paris Saint-Germain, de Atlético Madrid 2005-2006, lui il a dépensé 29 millions d'euros en achetant Ramos. Il avait 20 ans.
Assez vieux.
Ça fait 14 ans plus tard, il est toujours là. Tu n'achètes pas des joueurs comme Alves à tant si grand, Buffon. Tu ne fais pas l'avenir. Tu fais le présent et cette saison. Et on verra bien ce qu'on fait. Comprends ce que je dis?
Moi, je trouve qu'il y a quand même des jeunes. Enfin, je trouve qu'il y a quand même un amalgame. J'entends ce que vous dites. Et Buffon, je suis d'accord. Ils l'ont mis dans les pattes d'Areola. Ce n'était pas forcément la meilleure idée. Daniel Alves,
ils l'ont mis
aussi
dans les pattes de Tourelle, surtout.
Ouais, Daniel Alves, surtout, ça l'a permis de faire venir Neymar aussi. C'était le premier qu'on accroche pour faire venir le gros poisson derrière, parce qu'il y a du business aussi derrière. C'est-à-dire, pour le Paris Saint-Germain, c'est plus difficile
d'attirer. Le football, c'est pas business seulement. C'est football, c'est gagner des titres.
Mais je pense que quand vous êtes le Paris Saint-Germain, c'est plus difficile de faire venir Neymar que le Real Madrid. Donc, parfois, il faut aussi composer avec le foot business.
Les problèmes, c'est général pour la Ligue 1 d'attirer les grands joueurs, parce que c'est moins, comment dire, séduisant par rapport à des autres.
Championnat, c'est sûr.
Et là, malheureusement, ça crée un cocoon où les joueurs, ils sont. C'est pas les championnats en soi-même, mais vraiment l'institution qui crée les problèmes de base, parce qu'ils sont jamais portés à se mettre en question. C'est ça, pour moi, la clé.
Pour moi, il y a un gros problème d'humilité, encore une fois, et on parle toujours de
d'humilité et d'état d'esprit.
Ah, d'humilité totale. C'est-à-dire, quand tu compares les deux attitudes des deux clubs, des deux entraîneurs,
voir des supporters.
Tu critiquais Manchester United, le fait que personne n'y croyait, mais à Manchester United, je peux dire qu'ils y croyaient. Et depuis le match aller, Solskjaer, il a répété la même chose. Il dit, on est à Manchester United, notre histoire a montré que rien n'est impossible, qu'on a renversé des matchs. Il faisait référence à la finale de 99 au Camp Nou face au Bayern Munich, mais il y avait la demi-finale de 99 à Turin. Ils sont menés 2-0 au bout de 10 minutes. Ils gagnent 3-2.
Mais tu penses que c'est Manchester United qui a gagné le match ou c'est le PSG qui l'a perdu?
Non, mais je veux dire, ça fait partie de l'ADN.
Il y a forcément un peu des deux.
Ça fait partie de l'ADN du club. Ça fait partie de l'ADN du club. Ça fait partie de l'ADN du club. Attendez, ça fait partie de l'ADN du club. Lukaku, ce qu'il dit à la fin, il dit on y croyait. Combien d'équipes peuvent y croire? Ça n'est jamais arrivé. En 63 ans, il y a eu 106 matchs où l'équipe avait perdu le match aller à domicile 2-0, aucune n'a réussi l'exploit. Et les mecs de United te disent depuis le début, ils y croient. Parce qu'ils ont un entraîneur qui leur a fait croire que c'était possible. Et pour réaliser un exploit, la première chose pour moi, c'est déjà d'y croire. Et ces joueurs-là, même avec 10 absents, ils y ont cru dès le début. Ils avaient un plan, ils avaient un vrai plan de jeu. Qu'en plus, Solskjaer a été très clair, il a annoncé en conférence de presse la veille du match. Il dit voilà ce qu'on doit faire, marquer très vite, défendre, être patient. S'il y a une demi-heure de la fin, il n'y a qu'un but de retard, là, on va commencer à y croire et on va pousser pour marquer. C'est exactement ce qui s'est passé.
Même plus,
et le PSG n'a jamais réagi par rapport à ça.
Frédéric, on se disait, effectivement, en vous écoutant, et c'est un peu ce qui en ressort, C'est du côté du Paris Saint-Germain un manque d'état d'esprit.
Un manque d'état d'esprit, moi je...
Même dans le jeu. Moi, parce
ce qui
que...
fait écho, c'est quand on parle de l'institution. C'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. On n'arrive pas comme ça de nulle part. On le voit bien, ouais. De mettre des centaines de millions d'euros, ça ne suffit pas. Et quand un joueur est recruté et qu'il arrive dans un club... Eh bien, tout de suite, il s'imprègne de l'histoire de ce club. C'est le cas quand vous signez au Real, c'est le cas quand vous signez au Barça,
c'est le cas quand vous signez. C'est ce que faisait Patrice Evra quand il arrivait à Liverpool. Il regarde le DVD de l'histoire du club.
Et à Paris, on a beau faire venir tous les joueurs du monde, ça ne prend pas. Et il y a derrière, ce passé qui rattrape les joueurs. Vous parliez de thérapie de groupe. Il y a un moment, il va bien falloir qu'ils mettent tout à plat. Hein. On garde les mêmes joueurs. Thiago Silva, alors oui, il est très gentil. Il fait des superbes saisons en Ligue 1. El Monstro.
Mais c'est pas la première fois, nous dit Carlos.
Mm-hmm. Thiago Silva, il monte ses limites dans les grands rendez-vous. Oh, c'était qui le patron hier? Il suffit pas d'avoir le brassard de capitaine pour rameuter des troupes. C'était jouable jusqu'au bout, la qualif. Et ça s'est délité. Hein,
à mes défenseurs, je les disais des fois. Allez voir l'histoire de Franz Beckenbauer, qui est, parce que vous êtes jeune, et lui, il a joué, ça fait 40 ans. Allez voir. Et après, je vais vous raconter. Et j'ai vu Beckenbauer frapper le ballon à la tribune. Quand Bayern de Munich, ça allait pas. Ça rigolait pas. La seule chose qui, dans les compétitions, n'importe lesquelles, la seule chose qui reste, c'est la victoire, c'est la qualification. Et il doit penser à ça, Paris Saint-Germain. De n'importe quelle façon, arriver à se qualifier.
On parle souvent de l'institution et vous dites oui, effectivement, faut arriver, il faut se mettre dans la culture d'un club. Qu'est-ce que c'est la culture du Paris Saint-Germain? En plus, certains joueurs se sont permis de dire, et on pense à Ibrahimovic, il n'y a pas d'histoire.
Oui, on en parlait ce matin en préparant
hier,
l'émission.
Exactement.
Il y a une belle histoire dans les années 90, on a l'impression.
Mais les Qataris,
ils arrivent, ils changent le logo, ils changent les couleurs. Ils jouent même pas avec les couleurs du Paris Saint-Germain. Vous voyez bien, une Ligue des Champions,
les
jours, tout en noir.
Ils sont fâchés sous les maillots.
Mais par exemple, il y a un non-respect total de l'identité du PSG, de l'histoire du PSG. Ce que fait QSI avec le PSG, ce que fait Ibrahimovic, quand Ibrahimovic fait cette déclaration, personne ne le reprend au club.
Personne.
Et ça, c'est inadmissible. À United, ça ne serait jamais arrivé.
Qu'est-ce qu'il avait dit?
Il avait dit qu'avant lui, l'histoire n'avait pas, le PSG n'avait pas d'histoire.
Tout simplement,
qu'il n'existait pas.
Il vous connaissait pas d'ailleurs, Carlos.
Et moi, quand j'ai vu l'histoire de Carlos à RMC, on peut en parler, qui était à l'émission d'RMC lundi, et qui révèle qu'il n'est pas invité par le club.
Pour assister au match hier soir.
Mais moi, j'ai trouvé ça scandaleux. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir dans les tribunes avec Manchester United? Il y avait Eric Cantona, il y avait Alex Ferguson, il y avait, qu'on aime ou pas, Patrice Evra, il y avait Patrice Evra, qui est un joueur important de l'histoire de United. Il y a un respect aux anciens United qui est présente dans tous les échelons de ce club. Et cette âme, l'âme du club, elle vit à travers les anciens du club.
Et on l'a déjà pointé. Et alors justement, parlons de cette institution. Et peut-être, on l'a souvent redit ici, que le départ de Leonardo avait quand même changé des choses et déséquilibré un projet qui était peut-être bien parti. Le recrutement de Buffon, tout à l'heure. Ouais. Vous êtes venu pour voir Buffon, par exemple, hier, Valentina. Mais c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, Buffon, on sait quand même qu'il n'est pas resté à la Juve parce que il a plus de 40 ans. Et j'ai l'impression on n'ose pas trop le critiquer en France, mais depuis le début de la saison, il n'a pas montré que de la sérénité. D'ailleurs, hier, il y avait une rumeur qu'il ne jouerait pas le match.
Oui, hier après-midi, c'était à Real, théoriquement, qu'il devait débuter les matchs. Finalement, c'était Didier.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais je pense simplement que...
Est-ce que c'est vrai qu'il a renouvelé hier son contrat avec le Paris Saint-Germain?
A priori, il devrait prolonger il devrait prolonger encore un an. Ça veut dire que dans l'ensemble, ça fait 3 ans jusqu'à 2021 pour rester à Paris.
Ans,
ça, c'est Sky Italia qui l'a dit hier soir avant les matchs, parce que les journalistes, il est proche des Buffon. Donc, lui, il devait amener de la sérénité. Mais c'est lui hier soir qui l'avait pas, c'était les premières. Et on peut dire aussi que peut-être un peu des poisons, c'était resté par rapport à la finale qu'il avait perdue l'année dernière. toujours sur un penalty dernière minute, qu'il a pas joué.
Quand
parce
il s'était mis en colère
contre l'arbitre.
Contre l'arbitre à Santiago Bernabéu, le fameux match.
Il a laissé trois matchs dehors.
Mais Nabil, justement, il a été recruté pour être pour son savoir-faire, pour son expérience en Ligue des Champions et ailleurs. Ligue des Champions qu'il n'a jamais gagné. Et finalement, hier, on n'a pas eu la sensation. Je demandais à Frédéric, parce que lui, il avait une vue sur le terrain plus que nous derrière la télé, mais on ne l'a pas vu haranguer ses joueurs, les mener, être ce fameux leader qu'il devrait être.
Parce que je pense
paraît-il, à la mi-temps.
Le scénario était peut-être surréaliste, il était peut-être même en doute sur lui, mais effectivement, il fait cette cagade et tout Gianluigi Buffon qu'il est, il sait qu'il a mis aussi ses coéquipiers dans la panade, parce que le tournant du match, c'est la bévue de Buffon, parce que Kerrer, il met le Paris Saint-Germain déjà en difficulté,
ça c'est une chose.
Ça, c'est comme quand t'as une fuite d'eau. Hop, tout de suite,
mais
tu égalises.
Mais ils se reprennent. Ouais, mais ils se reprennent puisqu'ils égalisent.
Tu gères la première fuite d'eau et tiens, pendant que tu la gères, il y en a une autre qui sort de l'autre côté.
Et là,
la deuxième, c'est Buffon, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que vous avez raison parce que c'est symbolique du fait que ce garçon est venu. Ça reste bien évidemment une légende, un joueur extraordinaire. Il y a pas de souci. Il est venu pour apporter effectivement cette sérénité notamment à Thiago Silva, qui encore une fois, comme au New Camp lors de la remontada, s'est retrouvé encore à jouer bloc bas, à descendre, à attendre, à essayer de conserver le ballon. Et moi, ça m'a surpris parce que je pensais qu'avec Buffon derrière lui et pas Trapp, parce que si c'est Trapp qui lui parle, bon, à mon avis, il l'écoute pas trop, mais si c'est Buffon qui lui dit, bon, bah tu remontes le bloc, mon coco, et tu te dépêches, peut-être que là, Thiago Silva, il aurait écouté. Effectivement, il y a eu une faillite à ce niveau-là, et c'est très, très surprenant.
Et Carlos, tu crois qu'il y a un patron dans le club, dans l'équipe?
C'est la question des patrons.
Il n'y a pas de leader.
Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de leader. Ça devrait être Thiago Silva, le plus ancien, le capitaine.
Je pense que lui, il ne faut pas qu'il reste. Hein,
après le match aller, qui est venu nous parler hier, c'est Marquinhos qui a fait l'effort, comme souvent, de venir parler aux médias, aux journalistes. C'est le seul joueur qu'on a pu voir. Il a assumé.
On va l'entendre.
C'est inadmissible, mais bon,
on va l'entendre, Marquinhos, parce que effectivement, il vient et lui, c'est brillant en plus. On l'avait beaucoup loué son nouveau rôle sur le terrain, son nouveau placement, ce fameux numéro 6 qui manque tant à cette équipe. Il était là, il avait fait son job, et là, eh bien, il a été transparent, mais il a reconnu la faillite de l'équipe.
C'est un moment difficile pour tout le monde. Il y avait beaucoup de colère. Comme on dit au Brésil, c'est un moment de manger la merde. Qu'on peut faire mieux, de réfléchir, d'analyser, pas trop parler, parce qu'il fallait faire sur le terrain, on n'a pas fait. Et aujourd'hui, on a piqué, voilà, encore une fois, désolé aux supporters qu'ils ont été avec nous là-bas, ici. On est très dégoûté de cette soirée.
Carlos, une question, une curiosité. Hein, on rentre au vestiaire quand on a assisté du banc en tant qu'entraîneur à un match pareil. Qu'est-ce qu'on leur dit aux joueurs, là?
Tu sais pas quoi dire, parce que la réalité est là.
Bah oui,
tu
c'est ce que j'imaginais.
Tu dis, je le mets plein la gueule. Mais moi, je suis si coupable qu'eux. C'est moi qui les a fait jouer l'équipe. C'est moi l'entraîneur.
Mais il y a des moments où les joueurs, ils trahissent quand même votre confiance, non?
C'est pas trahir la confiance à l'entraîneur. Parce que le joueur, quand il rentre sur le terrain, c'est pour gagner.
Oui, il veut pas mal faire.
Le problème, c'était qu'il montre ses limites à un moment donné. Ils sont tous des internationaux.
Mais c'était la même équipe qu'à Manchester,
Carlos.
Oui,
mais Carlos, c'est pour ça. Et bon, peut-être que là-bas, ils jouent décontractés. Et ici, ils sont arrivés, ils disent, on mène 2-0. Je ne crois pas qu'ils ont pris le match à la légère. Hein. Attention.
Non.
Ils l'ont pas pris à la légère. Mais après, quand tu ne fais pas la différence,
tu réfléchis.
Les autres, ils prennent confiance. Je te dis la vérité. Quand j'ai vu le corps, le physique de l'arrière-gauche de Manchester, moi, je me suis dit, mais ce mec-là, il est carré.
Un peu grassouillé, même certains disent.
Mais non, t'as vu? Je dis, mais c'est pas possible, ça doit être la réserve de la réserve.
Non, c'est Luc Chaud.
Luc Chaud,
ouais. Ah ouais, bah, il a quel âge?
Il est un peu. Non, il a 24-25 ans. Mais il est connu pour ça, ouais, pour être un petit peu grassouillé.
Même celui qui l'a rentré après avec le numéro 20, celui qui frappe le penalty. Lui aussi, là.
C'est un jeune. Non, celui qui frappe là, oui, il a frappé sur le
penalty. C'est lui qui frappe sur le penalty. Bon, je me suis dit, mais je crois pas que les joueurs de Paris Saint-Germain, dans leur tête, ça allait passer à un moment donné et être éliminé. Je suis sûr qu'ils n'ont jamais passé.
Ah bon, vous n'avez pas trouvé qu'ils étaient fébriles à chaque minute plus?
Ah oui, si.
En deuxième mi-temps, ils ont essayé de garder le ballon.
Ouais. Ah. Ils ont essayé de garder le ballon parce que Thiago Silva, il voulait le garder. Mais en fait, tu le gardes, mais si tu ne le fais pas du mal à l'adversaire, ça ne te sert à rien.
En fait, le PSG a été bon quand il n'avait pas à calculer. Quand il prend le premier but, les 20 minutes qui suivent, ils sont très bons parce qu'ils mettent de la pression, ils mettent du pressing, ça va vite. côté gauche, côté droit, ça basculait et ils ont marqué. Et dès qu'il fallait recalculer à nouveau, dire ah ok, maintenant on est un partout, faut pas prendre le but, etc. Et là ils ont commencé à reculer, à laisser un peu plus d'espace. Et
mais là hier soir, la première 12 minutes après le but, c'était plus de 120 passes juste de la.
C'est arrivé jusqu'à 92% de possession.
En fait, footballistiquement, ils n'ont qu'une raison de trembler par rapport à l'équipe qui est en face d'eux. On voit bien que c'est un problème qui est mental, quoi. Et je pense que même le coach allemand, qui est un jeune coach, hein, rappelons-le, hein, c'est quelqu'un qui a pas non plus, il a bien travaillé avec Dortmund, je crois qu'avec Mayence, mais lui aussi, c'est pas le CV de Carlo Ancelotti. Il doit grandir avec le Paris Saint-Germain. Bon, ça sera certainement d'autres débats. Mais moi, j'espère qu'ils vont le garder, ils vont lui donner les pleins pouvoirs. Parce qu'il a quand même demandé des choses qui n'ont pas été validées.
Exactement.
Par son directeur sportif.
Les pleins pouvoirs.
Ça veut dire que le recrutement, c'est lui jusqu'au bout. Et quand il veut un numéro 6, on lui ramène un vrai numéro 6.
Tu veux que je te raconte le premier problème que j'ai eu avec le président de la Roma ?
Allez-y.
Allez-y, parce que j'étais pas là.
Je te le raconte. Je le demande en arrière droite et en arrière gauche. Et lui, il m'a dit, oui, mister, il m'amène Martin Dahlin. Dahlin, c'était l'avant-centre de la sélection de Suède,
oui, je connais,
en noir, qu'il avait fait en 94 un mondial aux États-Unis,
oui,
extraordinaire.
Un métis, ouais.
Je le dis, président, je le dis, j'ai Del Vecchio, j'ai Balbo, j'ai Fonseca et j'ai Totti. Je n'ai pas besoin d'un attaquant, je le dis. S'il vous plaît, amenez-moi en arrière-droite, en arrière-gauche. Ça démarre le championnat, il ne m'a pas amené en arrière-droite, en arrière-gauche. Trois mois plus tard, après avoir payé 6 millions de dollars à Borussia Mönchengladbach, il a revendu parce qu'en trois mois, il n'a pas joué un seul match. C'est moi l'entraîneur, c'est moi qui fais l'équipe.
Oui, mais...
Tu peux m'amener les joueurs que tu veux, mais c'est moi qui fais l'équipe.
Non, mais, Carlos, on
attention.
En parlait. Carlos, mais
Paredes.
Mais non, Carlos. Mais moi, parce que l'entraîneur, il doit. Tu sais comment les joueurs,
ils se rendent compte. Il fallait le mettre
à l'arrière-droite. Tu sais que les joueurs, ils se rendent compte quand on t'amène un joueur que tu ne voulais pas et tu le fais jouer.
Ouais.
Ah oui.
Bah ouais. Le joueur, il n'est pas con, hein.
Bien sûr.
Il n'est pas con.
Alors, bon, hier soir, on est à peu près tous d'accord pour dire que le problème, il était certainement dans les têtes, bah ouais. Mais quand même sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, Bruno, par exemple, des responsables, on va dire des coupables, mais des responsables. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute de Kerrer qui fait cette mauvaise passe au début? Est-ce qu'on peut dire que c'est Kylian Mbappé qui vendange deux belles occasions? Est-ce qu'on peut dire que c'est Prenel Kimpembe qui sort ses ailes là sur le dernier geste? Ou est-ce que finalement c'est une responsabilité collective?
Bah, ils sont tous responsables. Il y en a qui sont un tout petit peu plus responsables, comme Buffon qui fait une erreur, comme Kerr qui fait une erreur. Mais le problème, c'est quand quelqu'un fait une erreur, ça peut arriver de faire une erreur dans un match. Mais il faut que les autres la réparent, anticipent l'erreur de l'autre. Et on en parlait avec Carlos avant l'émission, sur le tir, que le ballon que relâche Buffon, il n'y a aucun défenseur qui réagit. Aucun défenseur qui sent le danger que peut-être s'il le relâche, il vaudrait mieux être là au cas où.
Trois arrières centraux, hein.
Ouais, déjà, personne ne monte sur sur Rashford.
Ouais,
hein, la frappe,
il
est à 30 mètres.
Il
n'y
a pas de pressing.
Bon, il est...
C'était la revanche de Lukaku hier, quand même, disons-le, parce que c'est un garçon qui est très contesté. Il y a limite un délit de sale gueule avec lui, alors qu'il fait ses stats... Enfin, il a des stats qui sont exceptionnels. Alors, il n'est pas toujours fort avec les forces, qui lui est un peu reproché.
Ouais.
Mais hier, je ne sais pas si le Paris Saint-Germain, c'est fort, mais hier...
Non, mais tu sais que nous parlons, non, de la défense.
Ouais.
Mais l'attaque de Paris...
A pas été meilleure.
Ils ne sont pas marqués plus d'un but.
Ouais.
Non.
Non.
Et
non.
Alors...
En plus, c'était Bernard qui a marqué.
Contre une défense que ça devait être la première fois qu'ils sont joués ensemble.
Non, mais c'est incroyable, les 20 premières minutes, le côté... Vous avez raison, là, le côté droit...
Le côté
là, de...
gauche.
Le côté avec Bailly et Young, là. Il y avait de l'espace sans arrêt.
Non, mais
sans
c'était
arrêt,
non, c'était...
Et,
non,
mais, et Bernard, alors, il était comment tu n'arrivais pas à planter plus d'un but à une équipe qui se sont trouvés le jour du match pour jouer défensivement?
Mais comment tu m'expliques que tu te fais éliminer par une équipe de ce niveau-là?
Eh bon, c'est le football. C'est le football.
Non, c'est ça.
Carlos, on ne va pas s'en sortir comme ça.
Mais parce qu'il y a un match à jouer à un moment donné sur le terrain, il faut le jouer le match, faut pas le jouer avant.
Mais ils
avaient
rien à
faire. Tu le joues 100 fois. Tu le joues. Non, mais là, on réécrit l'histoire. Tu le joues 100 fois.
Oui, mais ça se joue.
Avec les ingrédients.
Mais ça se joue qu'une fois.
Même avec la suffisance.
On peut dire
comment tu m'expliques qu'à la fin, ils se rendent des U17. Des U17 face à des internationaux argentins, des champions du monde. Des U17 de Manchester United.
Pourquoi ils l'ont
qui
pas
te
montré
jongle.
Pourquoi ils l'ont pas montré?
Moi, je pose les questions.
Il y a plein de...
C'est de la science-fiction.
Alors, c'est peut-être de la science-fiction, mais est-ce que pour vous, il y a une explication rationnelle à la déroute d'hier? Il y en a peut-être plusieurs, d'ailleurs.
Manque de personnalité de l'équipe. Et moi, je pense que quand tu gagnes des matchs tous les semaines sans te décoiffer... Parce que Paris Saint-Germain, ils gagnent les matchs sans se décoiffer.
C'est une belle image, oui.
Je peux te dire... Tu arrives après, la vraie histoire, c'est la champion. Et il y a des mecs en face qui veulent faire le miracle. Et ils l'ont fait. Par contre, toi, tu étais sûr, tranquille. Et à la fin, je ne comprends pas comment une équipe si offensive qui marque autant de buts en championnat français, il n'arrivait pas à les planter plus d'un but à Manchester United contre une défense qu'ils se sont trouvés le jour du match.
Il y avait une...
je peux pas donner une explication.
Non mais voilà, c'est irrationnel. Il y a un côté irrationnel à ce qui s'est passé. Alors c'est forcément en partie et en grande partie mental. Il y a une déliquescence absolue dans ce genre de rendez-vous.
Le championnat, c'est l'une des plus grandes explications. L'un des grands succès de l'OM de Tapie, c'est que Tapie a créé un deuxième club face à lui pour avoir de la concurrence.
C'était le
avec Canal Plus, ils ont créé le PSG. Et le PSG est devenu à l'égal de Marseille avant de les dépasser. Aujourd'hui, le PSG, la seule solution, c'est de créer un deuxième club aussi puissant qu'eux en Ligue 1 pour qu'il y ait une vraie concurrence. Il n'y a pas de concurrence en Ligue 1. Effectivement, ils jouent les matchs le week-end, mais ils pourraient mettre l'équipe B et gagner autant.
Alors,
pareil.
Mais Bruno, hier, on avait un peu le contre-exemple, et c'est ce qu'on disait hier dans Radio Foot, c'est-à-dire qu'on avait une équipe comme l'Ajax, qui n'a pas véritablement, qui a un championnat qui n'est pas des grands championnats.
Ah, et... il est disputé, le championnat des Pays-Bas.
Ouais, mais non, j'ai pas dit qu'il est. Mais non, par mais rapport, on dit toujours la Ligue 1, c'est mauvais, ouais, mais c'était des jeunes.
C'est pas l'histoire du niveau. Le Portugal, c'est pareil. Porto, ils sont qualifiés.
C'est pas l'histoire du niveau, c'est l'histoire d'avoir une vraie concurrence. Le championnat des Pays-Bas, l'Ajax sont pas premiers, ils sont pas leaders.
Je crois pas que ça soit. Alors très sincèrement, je crois pas que ça soit la Ligue 1 hier qui a empêché le Paris Saint-Germain de se qualifier.
C'est pas la Ligue 1, c'est la surdomination du PSG sur la Ligue 1, c'est ça.
Et on a peut-être été un peu aveuglé par le match aller le 12 février à Old Trafford, où certes Paris sort la copie parfaite, le plan tactique avec Marquinhos qui prend Pogba et Pogba qui est expulsé. Bon, très bien. Hein, mais Manchester, finalement, c'est le seul match qu'ils ont manqué sur les deux derniers mois.
Et puis on oublie qu'ils ont perdu deux joueurs sur blessure avant la mi-temps.
Et à l'inverse, le Paris Saint-Germain avant ce match référence à Old Trafford. Quand on regarde ce qui s'est passé à l'automne, on a eu des débats de ce genre dans ce studio quand, après trois journées de Ligue des Champions, c'était compliqué. Il y avait Naples devant, il y avait Liverpool. Mmh. Et on se posait déjà ces questions-là. Donc, il y a eu un petit sursaut. Ils ont battu Liverpool. OK, Neymar était là. On n'a pas parlé de lui. Il était dans les tribunes hier, Neymar.
Il est même descendu sur la pelouse, à la mode Cristiano Ronaldo.
On s'est peut-être emballé un peu vite. Et là, depuis le match aller, c'était Thomas Tuchel a trouvé la formule magique. Ça, Thomas Tuchel par-ci, Thomas Tuchel par-là. On pensait qu'il avait quasiment tout résolu. Bon,
En tout cas, Frédéric, à la sortie du stade, vous êtes allé promener votre micro. Vous avez trouvé quelques supporters.
Ah, c'est Thomas Moulin.
Pardon, Thomas Moulin. Plus que dépité, ces supporters. Écoutons leurs propos parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'être comme eux ou qu'ils sont comme nous.
Avec Neymar, ça n'aurait rien changé. Même les plus grands joueurs qu'on a recrutés n'y arrivent pas. On n'a pas de champion, il n'y a que des noms. Et j'ai pas l'impression qu'il y avait un vrai collectif. Pourtant, on a une équipe merveilleuse et qui montre rien sur le terrain. Au Parc des Princes, ça nous est jamais arrivé. En tant que supporter du PSG, c'est horrible.
Est-ce que la présence de Neymar aurait changé quelque chose au match?
Oui, Carlos. Pour moi.
Même Cavani, s'il était prêt à jouer, moi je comprends pas. Et
pourquoi
dans
il
le cas,
est rentré
si,
comme
pour
ça
quelle raison, ils l'ont fait jouer 20 minutes. Mais... Non, 5 minutes.
Après le pénalty.
Oui, après le pénalty. 5 minutes, je dis. Je comprends pas parce que pour la simple raison que s'il peut jouer 5 minutes, il peut jouer 90.
Mais là, il y avait de la suffisance. Il y avait de la suffisance. Si tu mets Cavani sur le banc, c'est que tu penses qu'il peut jouer. Si tu penses qu'il peut jouer que 5 minutes, le mets pas sur le banc, ça sert à rien. Si tu le mets sur le banc, c'est qu'il peut rentrer au moins 20 minutes, une demi-heure. C'est ça que je comprends pas, moi.
Il avait pas joué depuis un mois quand même.
Mais
Carlos,
moi, je pense quand même à ce moment-là, le mets pas sur le banc. Très sincèrement, on peut pas le savoir, mais je pense que quand même avec Neymar sur le terrain. Bon, je dis pas, c'est comme
on
une
se souvient
autre
du Neymar de la remontada, justement. Hein, oui, ça, puis, dans demain, je crois que ça fera deux ans. Hein, la remontada.
Il donne quand même confiance à ses coéquipiers. Quand le ballon, il te brûle les pieds, tu regardes, tu donnes à Neymar. Tu peux aller te cacher, lui il se cache pas, et puis même Mbappé il aurait pas voulu faire le héros tout seul. Voilà.
Mais
j'en sais rien.
Combien
mais
de stars
tu sais qu'il y a les joues sans dans le football, on les connaît les joues sans. Je suis allé voir Naples, Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Ils les sont baladés, les Parisiens. Hein. Et il était Neymar, il était Cavani, il était Mbappé.
Mais est-ce que ce Manchester United est supérieur à Naples
non
que tu as vu?
Mais je dis, dans un mauvais jour, tu peux trouver un adversaire qui joue mieux que toi.
Mbappé était dans un mauvais jour hier.
Oui. Moi, je dis, l'autre jour, en rigolant, je dis, il faut faire attention parce que tu peux pas jouer au football quand tu vas plus vite que le ballon. Et ce qu'il arrive à lui très souvent. Il va plus vite que le ballon, il laisse le ballon derrière, il là-bas. Non, mais je parle sérieusement.
C'est ce qui lui arrive sur le jeu.
L'image est magnifique.
Mais il a marqué
des pluies en plus.
Il y a tout son temps. Il y a des temps pour faire ça, pour faire le contrôle, pour démarrer, pour faire la feinte. Et lui, il y a des fois qu'il se précipite tellement. Les 12 occasions qu'il se précipite, c'était des situations claires de but.
Oui, et lui, en plus, il théoriquement, tout seul. Il n'a pas peur des...
Et il est défenseur, il était derrière les gardiens.
Mais il a quand même un souci dans les face-à-face, hein. Dans les face-à-face, avec le gardien, il a vraiment du mal, hein.
Quand il doit réfléchir.
Exactement, quand il doit réfléchir. C'est terrible. Ouais, ouais.
Quand il doit réfléchir tête à tête avec le gardien, il n'est pas tellement fort.
Ouais. Ah oui, mais il peut progresser, il est jeune.
Mais il a je voudrais avoir 20 ans.
À 20 ans, vous étiez aussi fort que lui ou pas? À 20 ans.
Si j'étais si fort que lui, non. Je n'étais pas champion du monde, il est déjà.
Oui, mais Messi, il n'est pas champion du monde, mais à 20 ans, il était peut-être plus fort que lui.
Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est pire que la remontada, Bruno?
Il suffit de regarder la composition de l'équipe de Manchester United, parce que c'était à domicile, au Parc des Princes, en ayant gagné à l'aller à Old Trafford. On voit l'équipe, il manque 10 joueurs à Manchester United, dont 5 titulaires. Tout le milieu de terrain, et la star de Manchester United n'est pas là, Pogba. Si à un moment donné, quand on voit l'équipe, c'est pas possible, ils peuvent pas le faire encore une fois.
Et tu sais, Barcelone, il y avait Neymar, Messi, Suarez.
Et c'était au Camp Nou.
Bruno, question de David Finzel, c'est Paris qui a perdu ou c'est Manchester qui a gagné?
Alors moi, il faudra m'expliquer comment une équipe peut perdre un match sans que l'autre le gagne.
Il sourit derrière la vitre. Et bon, écoutez en tout cas l'entraîneur de cette équipe de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, qui évidemment ne cachait quand même pas trop sa joie après la victoire.
Le plan était de marquer le premier but, de rester ensuite dans le match jusqu'à 5 ou 10 minutes de la fin pour tenter un coup, et c'est ce qui s'est passé. Des souvenirs fantastiques, voilà ce que le football nous donne. Et cela devient très spécial quand vous êtes entraîneur ou manager. Faire ça avec votre staff, vos joueurs, c'est un sentiment incroyable. De voir tout le club ensemble, les propriétaires, les anciens managers, les anciens joueurs, c'est vraiment particulier. Nous avions beaucoup de blessés, des suspendus, mais c'était peut-être une bonne chose car nous avions une équipe en forme, pleine d'énergie. Nous étions prêts à défendre, à travailler dur tous ensemble. Nous avions l'équipe pour ça.
Et les anciens qu'on a reconnus dans les tribunes, il y avait notamment Alex Ferguson, évidemment, le prédécesseur et un peu le parrain de Solskjaer. Et puis il y avait aussi Eric Cantona qui, dès avant le match aller, avait rappelé sa flamme mancunienne. Il y avait aussi Patrice Evra, qu'on a donc entendu tout à l'heure, qui love the game, bien sûr. Il y avait des centaines de supporters que les joueurs sont allés évidemment voir tout de suite à la fin. C'était le plan parfait de Solskjaer?
C'était le plan presque parfait, parce que dans le jeu, ils ont effectivement, il y a eu beaucoup de déchets techniques, mais parfait parce qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils sont passés. Fallait quand même rappeler les faits, fallait qu'ils marquent 3 buts au Parc des Princes.
Carlos a un sourire, oui. Non, parce que il est d'accord avec vous, bien sûr.
Et lui, il peut pas te donner une autre réponse pour la simple raison qu'il comptait pas l'Allemand, il fasse la...
Oui, parce qu'il y a deux passes décisives de l'équipe du Paris Saint-Germain.
Il faut relâcher le ballon, parce que ça, ce sont des choses que tu ne programmes pas. Alors lui, la question, c'est de se qualifier.
Eh oui. Si c'est qualifié, c'est que c'est parfait. Ah, voilà.
Ce Manchester United, il ne vous a pas épaté quand même hier soir, Frédéric, vous qui commentiez le match?
Non, mais ils sont en quart de finale. Comme disait Carlos Bianchi, c'est ce qu'on retiendra. Et en quart de finale, ils vont récupérer leurs joueurs blessés. Paul Pogba va revenir. Et Manchester fait partie, comme l'Ajax, des équipes qui pourraient, qui sait, aller encore plus loin, créer la surprise cette année.
Porto?
Ouais, Porto,
il est là. Ouais.
Dans cette équipe de
United.
Oui, équipe B, équipe C, de remplaçants, on va dire pratiquement. Mais il y avait quand même Romelu Lukaku, l'international belge, qui avait faim, lui, devant les buts. Et il y avait aussi Marcus Rashford, qui a marqué son premier penalty.
C'est le Mbappé de Manchester
United.
Oui,
c'est ce qu'on
dit. L'avait pas vu.
Mais il a 21 ans et il est un peu moins brillant.
Voilà, on l'avait pas vu à l'aller. Il avait été discret, mais c'est quand même des qualités très fortes. C'est assez impressionnant. Ouais. Il a une gestion de la profondeur qui est incroyable. Techniquement, il est hyper doué. Il peut jouer aussi comme Mbappé, soit dans l'axe, soit sur le côté. Et hier, il a attendu son heure et sa manière de tirer le pénalty, il n'a pas tremblé. En face, c'est Buffon. Ouais. Je veux dire, quand t'arrives, tu poses le ballon. Je suis désolé, je veux pas manquer de respect à Areola.
Non. C'est aussi... Il l'a expliqué d'ailleurs en plus que c'était difficile pour lui parce qu'il y a eu toute cette attente avec la VAR.
Il y a des joueurs qui viennent provoquer. Il y a des joueurs.
Et puis en face
ils
de toi, c'est Buffon.
Ils sont congratulés avant même que le pénalty soit tiré. Hein, les joueurs de Manchester quand
Mais il y a eu pas mal de grabuges avant qui tirent le pénalty. Il y a Marquinhos qui vient dire quelque chose. Il y en a un autre qui vient qui intervient.
Oui.
Ça a été un peu malsain comme ambiance. Après Rashford, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'il rate quasiment tout ce qu'il fait. jusqu'à il y a cette frappe de Buffon que Buffon relâche,
bien sûr,
mais il rate quasiment tout. À un moment il fait une passe, il veut tirer un coup franc à la place de Luc Chaud arrière gauche qui l'envoie complètement en touche de l'autre côté du terrain. Ouais. Il a raté
oui au milieu de terrain,
c'est terrible. Il l'envoie quasiment au poteau de corner de son propre camp, il rate tout. Ouais, et le gamin, il va prendre le ballon, il assume, il dit c'est moi qui prends la responsabilité du penalty.
Il a 21.
Il a 21 ans. Et quand on disait l'année dernière Ronaldo, les coronets qu'il a eu de prendre le pénalty face à Buffon, dernière minute, là, qui qualifie le Real face à la Juve. Ça, c'est un gamin de 21 ans. C'est culotté. Et ce gamin, il est considéré comme un phénomène en Angleterre. Il y a Harry Kane en Angleterre, qui est un attaquant extraordinaire, etc. Ils ont fait la comparatif des deux attaquants au même stade. À chaque fois, Rashford est en avance et très, 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 très long en avance par rapport à Harry Kane. C'est un phénomène.
Bon, ben on va avoir la chance de le voir.
Les espoirs sont permis. On imagine que son coach lui donne une confiance incroyable.
Bien sûr.
Et puis Solskjaer, c'est peut-être. Je sais que Patrick Juillard l'a déjà dit ici. Je vais le reciter. C'est peut-être le Zidane de Manchester United. On verra.
Mais... Ou le nouveau Ferguson.
Et Buffon, je voulais revenir sur Gianluigi, le pauvre. Il aurait pu le sortir, ce pénalty, ça aurait été lui le héros de la soirée, finalement.
Il se serait racheté un peu l'erreur qu'il avait fait avant, mais il a essayé. Les pénaltys étaient très bien tirés.
Après, le pénalty, franchement, est-ce qu'il y avait pénalty sifflable? Mais dans l'esprit du jeu, dans l'esprit. Gamin.
Mais il y a pénalty.
Mais dans l'esprit du jeu, il n'y a jamais pénalty. La balle, elle partait à Babel.
Mais c'est quoi l'esprit du jeu?
Tout quoi?
Ah, pour moi, oui.
Tu sais, je l'avais pas vu. Je le vois pas.
Ouais. Bah,
personne je l'ai vu ce matin à la télévision. Ce matin à la télévision.
Alors,
quand il y a quelqu'un qui frappe, tu te retournes comme ça.
Ouais.
D'accord. Tu sautes pas. Lui, quand il a vu que le ballon il est parti haut, il a sauté.
Mais ses mains, il les met où
alors? Il saute pas comme ça pour le prendre ici le ballon. Mm. Parce que tu peux sauter comme ça.
Ouais.
Il saute comme ça.
Et se tournant.
Et là, et là, tu couvres, tu sais combien? Tu couvres 2 mètres.
Ouais. Mais il faudra voir l'image, hein, Carlos Bianchi, là, qui déploie les ailes, qui se redresse.
Tu l'as vu, l'image de la télévision, c'est incroyable.
Et pourtant, il n'était pas défenseur, hein, Carlos.
Parce qu'il saute, ça veut dire qu'il va vers la direction où il est le ballon. Et quand tu ouvres les bras, tu prends 2 mètres.
C'est quand même un manque. La preuve, pour moi, Kimpembe, c'est l'image du PSG. Oui, oui. Ça manque de courage et ça trahissait toute la peur de ce PSG. Il avait peur de prendre le ballon en pleine poire. Du coup, il se retourne et il tend la perche à l'arbitre.
Parce qu'un défenseur, quand il y a quelqu'un qui frappe, il doit sauter.
Mais bien sûr.
Plein la figure.
Voilà.
Oui.
Et donc, l'histoire continuera pour Manchester United, qualifié en quart de finale de Ligue des Champions, alors que le Paris Saint-Germain est éliminé.
Mais dis-moi, Annie, c'est incroyable. Tu pensais que Manchester, Porto, Ajax, ils seront en quart de finale?
Non, même Tottenham, même Tottenham qui sort le leader
même
de la Bundesliga.
Mais d'ailleurs, Carlos, nous, on attend du coup que Lyon élimine le FC Barcelone.
C'est prévu.
Il faut y croire.
Mais oui.
Non, mais là,
excusez-moi,
il a baissé la radio.
Je veux pas parler de la course au Ballon d'Or parce que on n'est pas là pour individualiser le football, mais il y a Mbappé, il vient de se faire sortir. Neymar, il vient de se faire sortir. Potentiellement, Ronaldo. Peut se faire sortir. On peut, ça peut être un joueur de l'Atlético si l'Atlético va au bout. Mais enfin, Messi, quoi.
Mais Messi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner le championnat d'Espagne, il va gagner la Coupe d'Espagne, c'est tout.
Et la Ligue des Champions, s'il a gagné,
il était potentiel ballon d'or. Et la Copa América, c'est terminé. Mais Mbappé ne sera pas ballon d'or cette année. Mais d'ailleurs, ces joueurs du Paris Saint-Germain qui sont restés si longtemps couchés dans la pelouse ou le nez dans la pelouse, et on a vu Mbappé.
C'est Cavani qui allait les récolter tous.
Exactement. Il a récolté Kimpembe, relevé.
Il a fait ça, Neymar?
Non, Cavani.
Cavani était. Oui.
C'est lui qui a relevé les
joueurs. Lukaku aussi, l'image. Qui est venu consoler Kimpembe aussi.
Mm-hmm. Oui, on a vu. Oui, c'est vrai qu'il y avait des belles images comme ça, assez intéressantes. Et puis il y avait un autre match quand même sur l'autre chaîne. Alors on va zapper pour quelques secondes. Puisqu'on a une Italienne avec nous, on va en profiter. Alors c'était un autre terrain, c'était au Portugal, au bord de la mer, à Porto et dans le fameux stade dos Dragões, n'est-ce pas? Les Dragons de Porto qui recevaient l'AS Roma, la Roma qui avait gagné son match aller, mais elle avait gagné 2-1 et on s'était dit ce but
ça peut être dangereux.
Là les pourcentages c'était pas 3% pour se qualifier, c'était quand même un peu plus compliqué. Là aussi la VAR a eu une importance énorme. En tout cas, Porto s'est qualifié. Mais avant de parler de Porto avec Avec Nabil qui nous parlera très bien du double buteur de Porto. Mais Valentina, l'élimination de la Roma, on la ressent en Italie comme l'élimination du PSG?
Bah, c'est différent parce que la situation de Di Francesco était très compliquée déjà.
L'entraîneur?
Oui, l'entraîneur de la Roma. Il était sous la sellette.
Il a perdu contre la Lazio.
Oui, il a perdu le derby.
Le derby romain, quelques jours avant.
Là, ça fait un mois et demi que chaque jour, il peut être éjecté de son poste. Donc là, aujourd'hui, on se demande vraiment qui va prendre sa place. S'il va être renvoyé tout de suite ou à la fin de la saison.
Il y a des rumeurs portant le nom de Ranieri, n'est-ce pas?
Ranieri, l'histoire, c'est qu'ils avaient fait le nom de Paulo Sosa, qui normalement, demain, il devrait signer à Bordeaux. Donc... déjà, ça change un peu les choses. Et là, c'est vraiment compliqué. Je pense que c'est une saison un peu maudite pour la Roma. Ouais, hier soir, Florence.
Votre président du club de la Roma, il y a un mot à la mode, là.
Sinon, en sortie de match, on dit toujours la même chose. À la Roma, si vous en prenez.
Non,
j'ai un latéral droit, j'en ai un pour vous, Carlos. J'ai un latéral droit pour vous, si vous voulez.
Bon, très bien.
Est-ce qu'il est jeune?
Daniel Alves, 36 ans.
Carlos, allez, on investit, regardez.
Je sais pas comment ça finit. L'histoire. Six mois plus tard, au mois de décembre, j'ai amené Candela.
Ah oui, bonjour.
Oui, il m'a engueulé, le président.
Ah bon?
Parce qu'on avait acheté Candela 1,5 million de dollars.
Bonjour,
tout ce qu'on avait dépensé. J'ai pris un petit avion, je suis allé à Guingamp, ouais. Vous pouvez le demander à Vincent. Je suis allé à Guingamp, je l'ai amené à la Roma, on l'a acheté, il m'a engueulé. Mais 1,5 million, c'est beaucoup d'argent.
Derrière,
il a joué 8 ans en Roma.
Avec la carrière qu'il a fait derrière.
C'est un super joueur.
Valentina, ouais. Comment comprendre la Roma qui l'année dernière, on s'en souvient, elle avait éliminé le FC Barcelone à domicile avec un match incroyable.
Bah, pour moi, je pense que Carlos peut en parler mieux que moi. L'ambiance de la Roma, c'est très compliqué. Dans le sens, l'année dernière, ils étaient tous derrière Di Francesco. Là, cette année, c'est depuis le début de la saison.
Il n'y a pas de mémoire, en fait, dans le football. Ce qu'il a réalisé l'année dernière, il élimine le Barça, il va en demi-finale avec des champions. C'est
et il n'avait pas...
Sauf
cette
au PSG,
année,
pour la remontada, il y a une mémoire.
Déjà, ils ont lui élevé pas mal de joueurs. Donc, il y a des gros changements. Il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il a.
Ouais. On pense à un certain Javier Pastore.
Ah ouais.
L'ombre fantôme de cette équipe. Mais bien sûr, je sais, Carlos. Mais je dis à ça. Elle dit qu'il y a eu un recrutement qui cause problème.
C'était pas au niveau. Surtout par rapport au départ qu'il est. Nainggolan, qu'est-ce qu'il est? C'était
Nainggolan,
très important.
Bien sûr.
La Roma. Donc, voilà, c'est ça les problèmes. Et je ne pense pas que c'est simplement les changements d'entraîneur qui va changer
les problèmes de la Roma. C'est ce qui arrive souvent, hein, n'est-ce pas, du côté de Rome, Carlos?
C'est spécial, la Roma.
Ouais.
Un jour, Ennio Morricone, avec lequel j'ai
dîné. Le musicien?
Oui. Un jour, il m'a dit, Mister, io sono romano, je suis romain. Mais nous, les Romains, on croit que le monde, il fait le tour du monde.
Autour de nous.
Autour de nous. Mm-hmm. Elle m'a dit ça. Et ça, c'est un problème des Romains.
Quelques instants, Nabil, pour qu'on rende hommage au vainqueur du soir, donc ces dragons du FC Porto, emmenés par Sergio Conceição.
Emmenés par, effectivement, l'ancien entraîneur de Nantes qui réalise un travail fantastique. Il est à la course pour le titre de champion
l'année dernière
du Portugal. Il a remobilisé cette équipe avec des moyens financiers moins importants. Il a notamment créé un triumvirat 100% africain la saison dernière. Il en reste deux, puisque Vincent Aboubakar s'est fait les croisés. L'autre, c'est Yacine Brahimi qui est rentré en cours de match. Mais celui qui porte aujourd'hui les espoirs du club portugais, comme Patrice Evra, hier présent au stade et originaire des Ulysses du côté de la région francilienne, c'est le Malien, l'international malien Moussa Mariga, qui vit une deuxième partie de carrière assez exceptionnelle. C'est un garçon avec une trajectoire heurtée, qui a d'abord galéré pour beaucoup, mais avec au mérite, notamment en se faisant les dents au Portugal, à Marissimo et je crois à Guimarães, si je dis pas de bêtises, et aujourd'hui une attraction avant formidable pour cette équipe portugaise. Porto, pas toujours une grande équipe, mais toujours un grand club, et encore une fois, présent dans le top 8. Alors, ces dernières années, ils ont eu un plafond de verre, ils se sont arrêtés en quart de finale, ils sont tombés une fois contre la Juve, ils étaient pas passés. Mais, c'est une équipe, rappelons-le, Annie, qui a gagné plus de Coupes d'Europe, de Ligue des Champions que la France à elle toute seule, puisque en 87 avec Magyar et en 2004 sous Mourinho. Donc, Porto, comme d'habitude, au rendez-vous. Il faudra les surveiller. C'est peut-être une Ligue des Champions des outsiders.
En tout cas, ils l'ont déjà gagné deux fois, cette Ligue des Champions. Ouais. Il y a longtemps, en 1987, quand le football était autre, certainement. Puis en 2004, et c'était évidemment avec
Casillas, qui est toujours au but. On parlait de Buffon tout à l'heure. Casillas qui a été hier important.
Lui aussi, pour moi, était important dans tout ça. Parce que quand même, il connaît très bien la Roma et tout ce qui sont les problèmes à Rome.
On a vu Casillas aller consoler lui aussi hein, les Romains qui n'arrivaient pas à se relever. Donc, pour la semaine, on aura eu donc des qualifiés déjà. Et Manchester United, Porto, l'Ajax d'Amsterdam et Tottenham. Merci beaucoup, messieurs, de cette thérapie de groupe autour du Paris Saint-Germain. On en avait tous besoin. Merci aussi à David Finzel. Merci à Laurent Salerno qui était à la réalisation aujourd'hui. Rendez-vous demain, Café des Sports.